Mehdi Ahin, Karima, Matin Famille.
Et nous sommes en direct avec coach Imane Bilou pour parler donc du mindset de victime. Imane Bilou, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille aujourd'hui.
Le plaisir est partagé, Karima. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Alors Imane, on commence peut-être par une petite définition pour les personnes qui nous écoutent. Le mindset de victime, c'est quoi au juste ?
Alors, l'esprit de la victime ou le mindset de la victime, comme vous l'appelez, donc la victimisation, elle n'a aucun rapport, il faudrait bien le souligner, elle n'a aucun rapport avec un statut factuel de victime. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans la victimisation ou dans le mindset de la victime, qu'on l'est réellement et factuellement. On est plutôt dans une sorte de perception. On se perçoit victime parce qu'on subit sa vie plutôt qu'on la décide ou qu'on la contrôle. Donc la sensation de subir sa vie va créer des frustrations, un sentiment d'insécurité, et ceci va faire qu'on va se victimiser, qu'on va rejeter la responsabilité sur les autres et qu'on va sentir de manière réelle, là où on ne fait pas semblant, justement, on va sentir de façon réelle que ce sont les autres qui sont à l'origine de tout notre mal-être en général. Voilà le mindset, si on veut le définir de manière grossière, le mindset de la victime.
Et comment expliquer justement que certains profils de personnes, ou plus précisément, quels sont ces profils de personnes qui sont susceptibles à se positionner en victime ? Est-ce qu'il y a des profils psychologiques définis ?
Alors, la victimisation va trouver son origine certainement dans l'enfance. Je veux dire que certaines personnes ont été, gérées, hein, je le mets entre guillemets bien entendu, par des parents qui ont incriminé cet enfant, qui l'ont poussé à être dans un sentiment de honte, de culpabilité. Et cet enfant qui vit cela en bas âge et aux premières années de l'enfance, va se retrouver à l'âge adulte comme une victime, parce qu'il se reconnaît à cela, c'est-à-dire qu'il se conforte à ça. Maintenant, cette personne qui va avoir honte ou qui va culpabiliser, pourquoi est-ce qu'elle va se victimiser ? C'est parce que si elle décide ou si elle accepte d'avoir honte ou d'être dans la culpabilité, ça la renvoie vers les traumatismes de l'enfance. Je vais m'expliquer plus clairement, parce que j'ai l'impression, en m'écoutant, que ce n'est pas très clair. Alors, quand on va imaginer un enfant de 5, 6 ans ou 7 ans, d'accord ? Dont les parents vont toujours pousser vers « Ah, tu as fait cela, c'est très mal ce que tu viens de faire. Tu n'as pas pu faire cela. Ah, tu n'es pas capable. Ah, tu es un nul. Ah, tu es ceci. Ah, tu es cela. » Alors, cet enfant va grandir avec un sentiment omniprésent plutôt, de culpabilité et de honte. Ouais. Quand il va grandir et qu'on va lui dire « Est-ce que tu as mené la réunion ? Est-ce que tu as préparé cette présentation ?» Ça, je parle de la sphère professionnelle, bien entendu. Ou bien, dans la sphère domestique, si le conjoint dit « Oui, mais ce plat, tu ne l'as pas préparé comme d'habitude, il n'est pas bon, il lui manque quelque chose » ou quelque chose de ce genre. Cette personne, au lieu de se retrouver ou d'accepter de se retrouver dans un sentiment de honte où elle est gênée de ne pas avoir fait les choses correctement, ou carrément de culpabiliser parce qu'elle ne s'est pas donné le temps nécessaire pour bien préparer ou pour donner ses chances à ce produit qu'elle va avoir à faire, elle va se dire « Non, je préfère rejeter la responsabilité sur les autres, sur mon environnement, sur le climat, sur n'importe, à condition que ça me permette de sortir de ce sentiment de culpabilité ou de honte que j'ai été habituée à vivre à l'enfance et que je n'ai plus envie de vivre parce que c'est un trauma tellement profond que ça en devient douloureux.
Ouais.
Donc, je préfère être la victime plutôt que d'assumer et d'être dans ce sentiment de honte et de culpabilité qui a accompagné mon enfance.
Donc, ne pas assumer justement sa part de responsabilité pour éviter de se retrouver dans la culpabilité.
Justement, justement, c'est exactement cela.
Et comment s'en sortir justement de cette victimisation? Est-ce qu'il y a des moyens de ne plus rester dans ce mindset? Parce qu'on sait aussi que ça peut engendrer beaucoup de complications au niveau des relations humaines, que ce soit avec les proches, la famille, en couple ou au travail, etc. C'est très compliqué à gérer. Est-ce qu'on peut s'en sortir justement de ce mindset?
Alors, Kalima, c'est très bien et c'est très juste quand vous parlez de tout ce qui est vécu personnellement d'abord, avant de parler de ce qui est vécu professionnellement. Vous savez, la victimisation va démarrer et va prendre, son essence première au niveau de la sphère domestique et personnelle. La principale préoccupation des victimes, des victimes entre guillemets, de ceux qui se victimisent, ou celles des personnes qui se victimisent, elle est affective. Je veux dire que la première chose, la première manifestation de cette victimisation va se faire sentir dans la sphère domestique où je vais commencer à dire c'est la faute de mon mari, c'est lui qui ne m'a pas laissé évoluer, par exemple, dans la vie professionnelle. Je vais dire que oui, c'est parce que j'ai 3 enfants à gérer, ça ne me laisse pas le temps de m'occuper de moi-même. C'est parce que dans ma famille, on va, bref, il y a énormément de choses qu'on va reprocher aux éléments, aux facteurs présents au niveau de sa vie personnelle. En premier, ça va être très très présent au niveau de la sphère domestique et personnelle.
Ouais.
Et cela va être très apparent quand on va parler je vais souligner ce mot de suradaptation. Vous savez qu'une personne qui se victimise est une personne qui essaye de faire plaisir.
Ouais.
Énormément, ça va de pair. C'est quelque chose qui va accompagner la victimisation, ce sentiment de cette obligation qu'on a de vouloir faire plaisir. On n'ose pas en tant que victime, on n'ose pas dire non. On va se suradapter en continu et on va finir par assumer des choses, assumer légèrement. On va devoir faire des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas envie de faire ou qui ne dépendent pas de nous, enfin, dont on ne contrôle pas tous les tenants et les aboutissants. Donc du coup, on va se retrouver dans des situations où on va mal faire les choses en vrai. Et du coup, au moment où on va nous le reprocher, du moment qu'on ne l'assume pas réellement, et ben, la première réaction qu'on aura à faire, c'est la victimisation. Alors j'en viens à votre question en disant, mais comment on peut s'en sortir? Déjà, on va commencer par la dimension personnelle. Et on va dire, la première des choses à faire, c'est de se dire, qu'est-ce que je suis tenue réellement de faire? Qu'est-ce que je m'oblige à faire en me contrariant, en me faisant violence? Parce que c'est cela. Quand nous sommes une personne qui va répondre à certaines sollicitations en se faisant violence à soi, on est dans un cadre qui va forcément aboutir à de la victimisation. Je vais d'abord me dire, attention, je dois exprimer et verbaliser mes ressentis. Je suis face à une personne qui me demande quelque chose. Cette chose va tout de suite me paraître décalée. Elle va tout de suite me contrarier. Il faudrait que je le verbalise. Pas de manière agressive. Nous ne sommes pas dans de la violence verbale.
Bien sûr que non.
Au contraire. Nous sommes dans un cadre d'assertivité. D'ailleurs, tout le monde le dit. En fait, les psychologues qui se sont penchés sur la question vont vous dire que la victimisation est souvent associée à un manque d'assertivité et un manque d'estime de soi. Quand on est dans un cadre de victimisation chronique, hein, je dis bien chronique, il ne s'agit pas de le faire une fois tout je ne sais quoi.
Non, que ce soit une habitude.
Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous.
Oui, c'est vrai.
on l'assume. Par contre, quand il s'agit d'une victimisation chronique, alors les psychologues vont dire attention, ça dénote d'un sentiment de manque de légitimité qui est associé au manque d'estime de soi et au manque d'assertivité, mon incapacité à affronter l'autre et à lui dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, et voilà ce qui m'arrange, et voilà ce qui ne m'arrange pas.
Ouais.
Donc, c'est ça qui va pousser la personne, in fine, à être dans une situation de victimisation. Alors là, on a parlé du côté personnel. Dans le côté professionnel, c'est pas très différent. Maintenant, je vous l'affirme, quand on a réglé cette tendance à se victimiser dans la sphère personnelle, si on est arrivé à le faire, franchement, il ne reste que des bribes au niveau professionnel.
Des petits ajustements, aller, peut-être.
C'est corrélé, c'est corrélé. Il y a des petits ajustements à faire au niveau professionnel. Parce que vous savez, les relations qu'on a avec les personnes proches, notre cercle intime, ne sont pas les mêmes relations que nous tenons avec nos responsables hiérarchiques, nos supérieurs, nos collègues, nos collaborateurs, etc. Il y a quand même une certaine distance qui fait que ça devient plus difficile de transmettre un ressenti, de s'expliquer, de demander des choses. Il s'agit aussi de faire des demandes. Donc là, dès qu'on a pu s'affirmer au niveau personnel, on va avoir un regain de confiance. Donc on va se sentir légitime à notre place. Et une fois nous voudrons tester la chose au niveau professionnel, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à gérer.
Donc ce n'est pas finalement une fatalité en soi, on peut s'en sortir.
Justement, il ne faudrait pas qu'on considère cela comme une fatalité.
Et comment
la considère comme une fatalité.
On reconnaît, par exemple, dans notre entourage, une personne qui a ces tendances de victimisation, comment est-ce que l'entourage, justement, peut contribuer à ce changement?
Alors déjà, en évitant de conforter la personne dans cette situation. Vous savez, des fois, on a dans notre entourage, comme vous le dites, une personne qui se victimise. Donc, on va dire, mais cette personne, mais la pauvre, elle ne sait jamais rien faire. Mais la pauvre, c'est jamais de sa faute.
Ouais, pas de chance.
Et on commence à le dire comme si on l'acceptait, comme si c'était une fatalité, justement, comme vous l'avez si bien dit auparavant. Comme si c'était une fatalité, comme s'il n'y avait rien à faire. Il ne faut pas que cette personne entende de notre bouche que... c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Parce que là, on l'encourage à continuer et à sombrer davantage dans cette victimisation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il ne faut pas, absolument pas, qu'on la reconnaisse pour sa victimisation. On doit la reconnaître pour autre chose. On devrait plutôt saluer et souligner les moments où elle n'est pas dans la victimisation. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il faudrait aussi l'aider à changer ses habitudes habituelles. Enfin, ses habitudes, je me suis répétée, c'est redondant.
Non, c'est
ses
bien.
Habitudes habituelles plutôt. Ok.
C'est
ses habitudes
grave.
Habituelles.
Ouais.
Donc, si on l'aide à changer cela, comment on va le faire? On va le faire en l'encourageant à sortir de sa zone de confort, mais en l'aidant, en lui tendant la main. Parce que ces personnes-là, à force de victimiser, sont dans l'incapacité d'oser la nouveauté. Donc, ils ne sont pas dans le changement. Et le fait de les mettre dans le changement, mais en étant très bienveillant, en étant là, en étant présent pour elles, ça pourrait les aider justement à percevoir et à considérer la situation autrement. Et ça, c'est très, très intéressant comme exercice à faire avec les personnes qui sont dans le mindset de victime.
Voilà, donc toutes les infos sont là. Merci beaucoup, Imen Jibilo, d'avoir apporté tous ces éclairages. Et puis, on se retrouve lundi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet.
À lundi prochain, Inch'Allah.
Merci, ciao, ciao.
Au revoir.